Madame Sophie Aragon. Monsieur Ayala est absent. Monsieur Ballong. Monsieur Bertin.
Présent.
Madame Calmette. Présent. Monsieur Chantran m'a donné procuration. Monsieur Estournès.
Présent.
Louis Gaston est absente. Ah, Valérie à la procuration. Non, on l'a pas. Madame Jérometta, présente. Madame Larioste est absente. Monsieur Lécussant.
Présent.
François Lejeune a donné procuration à Michel Martin. Madame Mallet.
Présent.
Monsieur Martin.
Présent.
Madame Horry.
Présent.
Madame Monteau.
Présent.
Madame Montoya.
Présent.
Pascal Orazio est absent. Excusez. Madame Aurélie Mallet est là. Madame Séchao. Monsieur Solana.
Présent.
Monsieur Soumane. Je vous propose. Voilà, de passer à l'ordre du jour. Il nous faudrait un secrétaire de séance. Quelqu'un est bénévole. Merci Aurélie. Donc, Madame Aurélie Mallet. Nous passons au point suivant, l'approbation du procès verbal de la séance du 17 avril 2019. Y a-t-il des remarques ? En l'absence de remarques, je vous propose de procéder au vote. Contre ? Un contre ? Abstention ? Une abstention ? Approuvé, je vous remercie. Comme à chaque conseil municipal, on vous fait part des décisions qui ont été prises en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc, vous dire qu'il y a une décision le 9 mai 2019 qui a été prise pour la désignation du cabinet Buissou pour représenter la commune dans le cadre de l'affaire opposant l'association Savès Accueil Transparence afférente à l'EHPAD de la Prade et la commune, opposant à la commune, dans le cadre de l'instance pendante devant la Cour administrative d'appel à Bordeaux, désignée comme cour de renvoi suite à la décision du Conseil d'État. Voilà, donc on garde le même cabinet. Mais juste pour vous dire qu'on a repris une décision. En fait, on ne pouvait pas le défendre sur le point qui a été saisi, puisqu'en fait, la première défense et la défense qui avait été prise et l'attaque exactement qui avait été faite, c'était sur le fait que la collectivité, enfin, qu'il y avait eu un problème de mise en concurrence par rapport au marché de construction. Et la décision de la Cour d'appel de Bordeaux a été non pas sur la question de la construction, mais sur la question de la mise en concurrence de l'opérateur HLM qui a réalisé la chose. Et c'était un point qui n'a jamais été soulevé et sur lequel la Cour d'appel s'est auto-saisie. Donc en fait, on ne pouvait pas défendre sur ce point-là, puisqu'en fait, la Cour d'appel s'est auto-saisie de ce sujet.
D'accord, je comprends.
Voilà.
Est-ce que vous pensez qu'on peut revenir sur la décision du Conseil d'État ? Bien que ça ne soit pas le point qui soit soulevé par le Conseil d'État.
Le Conseil d'État dit juste qu'il faut que la Cour d'appel doit re-examiner.
Comment ? Nouveau point, ce nouveau point.
Non, ce n'est pas à partir de ce nouveau point. Elle estime qu'elle est allée trop, enfin, madame, vous me corrigerez, qu'elle est allée trop loin dans son analyse et qu'en fait, ce qui avait été fait précédemment ne nous allait pas juste pour régulariser, mais juste pour établir une situation déjà en place. Voilà. Très bien.
Ce que je voulais dire à M. Solana, c'est pourquoi le Conseil d'État ne peut pas casser en disant stop, c'est terminé.
Parce que le Conseil d'État juge en droit. Et donc juste renvoie pour dire qu'il faut rejuger sur le...
Vous
ne
pouvez pas juger définitivement. Non, je pense que...
Oui, à la lecture de...
Je le sais, je sais que c'est comme ça.
Là, pourquoi vous posez la question?
Non, mais c'est comme ça, mais après, ça revient devant la Cour, mais est-ce que devant la Cour, on va plaider autre chose que de revenir au point de départ?
Non, mais le Conseil d'État a annulé l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux au motif qu'il y a eu une erreur de qualification, étant donné que la Cour d'appel de Bordeaux a parlé en fait de commande publique et de respect des règles de la commande publique. Le Conseil d'État a jugé que cette qualification était erronée. Donc il renvoie vers la Cour administrative d'appel de Bordeaux, qui du coup, je ne suis pas voyante, mais ne devrait pas ou plus se saisir de ces motifs-là. Voilà.
Donc je vous propose de passer au point de délibération. Concernant donc le premier point, approbation du règlement intérieur de la piscine municipale pour l'année 2019. Alors juste une petite rectification sur votre note de synthèse. La piscine sera ouverte du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre 2019.
Au public.
Au public.
Et avant, elle est scolaire.
Et avant, oui.
Du premier au...
Et donc, et les établissements scolaires, comme il est dans, sur votre note de synthèse, mais là, rien ne change, du 1er au vendredi 5 juillet 2019. Et juste vous dire aussi que le règlement intérieur reste inchangé. Il y a juste quelques petites modifications à certaines précisions apportées par les maîtres nageurs, notamment concernant l'article 7, on disait qu'il était interdit de marcher sur les plages de la piscine avec des chaussures de ville. Ils ont préféré le remplacer avec des chaussures, ce qui semble plus simple à identifier et moins porter moins de contradictions. Et sur l'article 11, la dernière phrase a été ajoutée. L'accompagnateur devra impérativement signaler la présence du groupe au maître nageur sauveteur. C'est-à-dire, dès qu'il y a un groupe, il faut qu'il puisse se signaler au maître nageur qui préfère connaître leur présence. Et l'article 12... toute sortie d'un baigneur de l'établissement est définitive. Ça évitera des difficultés dans la gestion après des venues et des allers-retours. Est-ce que vous avez des questions ?
Le règlement ?
C'est plutôt le poste qui est élaboré avec les services de secours. Ça, c'est le règlement intérieur. C'est encore différent. Mais par contre, il a été élaboré avec les maîtres nageurs qui assurent à la fois...
Par contre, quand je vais à la fin de votre note de synthèse, vous parlez de deux postes éducateurs. Ils vont servir à quoi exactement ?
Ce sont les maîtres nageurs. Ce sont les postes pour les maîtres nageurs.
Éducateurs
des activités physiques et sportives. C'est le grade sur lequel nous recrutons les maîtres nageurs. On est obligé de les recruter sur un grade existant dans la fonction publique territoriale. Donc c'est un grade de la filière sportive.
Donc ce ne sont pas des MNS.
Si,
ce sont des MNS.
Si.
Mais le grade de MNS n'existe pas dans la fonction publique. Nous sommes obligés de les recruter sur un grade existant.
Donc, si vous n'avez pas de remarques sur le règlement intérieur, je vous propose de procéder au vote. Contre, abstention, approuvé, je vous remercie. Donc nous passons au point 2, approbation du plan d'organisation et de la surveillance et des secours de la piscine municipale pour l'année 2019. Là encore, tout reste inchangé, il n'y a pas eu de modification, si ce n'est une petite précision, page 3, dans le tableau notamment des tarifs d'entrée, concernant les enfants de moins de 12 ans, et où on a précisé domicilié dans une commune membre de la communauté de communes Cœur de Garonne. C'est tout ce qu'on a apporté comme modification. Est-ce que vous avez des questions ? En l'absence de questions, je propose de procéder au vote. Contre ? Un contre, abstention, approuvé, je vous remercie. Donc, le point suivant, convention opérationnelle Centre-Bourg avec l'établissement public foncier d'Occitanie. Donc, l'établissement public foncier d'Occitanie est une émanation de ce qui existait déjà, qu'on appelait EPF de Languedoc-Roussillon. Et du coup, l'établissement public d'Occitanie, lui, a été créé en 2017. Et donc, si on vous propose de signer une convention où il n'y a pas d'engagement financier de notre part, mais qui permet de pouvoir envisager des projets avec le PF à terme sur une période de 8 ans et qui sera aussi présentée à l'intercommunalité pour pouvoir porter elle aussi, enfin pouvoir donner son accord. Est-ce que vous avez des questions ?
Excusez-moi.
Oui.
J'ai voté contre le plan d'organisation.
Oui. Vous voulez rectifier votre vote ? Pour ? Vous êtes ? Oui, bien sûr, vous êtes pour. Donc, pour noter la rectification du vote. Merci. Est-ce que vous voulez une présentation plus détaillée de l'EPF ou de...
Oui, parce que je vais juste vous dire que nous, pendant le dernier mandat, on en avait parlé en communauté de communes et on avait dit non. Et donc...
Alors, je ne pense pas que vous ayez... Non, je pense pas que vous puissiez... Vous ayez pu parler de l'EPF ?
Si.
Non ? Parce qu'il n'existait pas.
Si.
Non ?
Ça s'appelait autre chose.
Non, ça n'existait pas sur la collectivité, ni sur la région, puisqu'en fait, ça existait sur Languedoc-Roussillon, mais on n'était pas équipé d'EPF en Midi-Pyrénées. Et donc, l'EPF...
C'était un établissement français, excusez-moi, qui se chargeait pour les communes de... Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais on avait dit non, au départ. Voilà, c'est tout.
D'accord.
Là, il rétrocède ensuite à la mairie.
Alors en fait, dans les projets, mais là, il n'y a pas de projet. Là, c'est juste une convention pour pouvoir, si un jour il y a quelque chose qui se présente, pouvoir envisager un projet. Et ça va dans la politique de développement et de redynamisation du centre-bourg. Et après, il faut à chaque fois, pour chaque projet, bien sûr, l'accord du conseil municipal. Et l'idée, comment ils le portent, ils achètent, eux. Donc ce sont eux qui négocient. Ils accompagnent pour faire les études aussi, immobilières, savoir les travaux et tout qui sont à réaliser. Et donc ils négocient avec le vendeur, ce qui permet d'éviter d'avoir la collectivité qui négocie, ce qui est toujours un peu délicat. Et ils se portent acquéreurs. La commune a après 5 ans pour pouvoir acquérir le bien. Si elle décide de faire des travaux, dans ce cas-là, elle doit l'acquérir avant de faire les travaux. Donc c'est le moment où on fait les travaux qui est décideur. Ce n'est pas forcément la commune qui acquiert la totalité. On peut faire des conventions avec des bailleurs, prévoir la revente avant, enfin voilà. Donc c'est un montage qui est plutôt intéressant. Et en plus, on a un accompagnement technique de l'établissement public foncier, de conseil aussi.
Et c'est rétrocédé sous quelle forme? La commune
achète.
C'est elle
achète.
Elle achète, c'est pas voilà. Un bail en fait, c'est...
Non, c'est un achat.
Ils sont rémunérés comment, cet organisme?
Eux, ils sont, c'est public. Donc en fait, ils sont là pour accompagner et accompagner l'acquisition foncière. Donc je pense que c'est subventionné. Il n'y a pas de rémunération pour eux là-dessus.
Est-ce que c'est la communauté de communes qui gère?
Non.
C'est la commune.
C'est la commune, mais la communauté de communes est appelée à donner un avis sur la convention, comme ce que vous allez faire là aujourd'hui, parce que il y a aussi la compétence habitat. Et donc du coup, elle participe comme dans toutes les conventions.
Pourquoi c'est pas chapeauté par la communauté de communes? Ça devrait être chapeauté par la
communauté. C'est les crédits régionaux.
Alors aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la communauté de communes, elle n'est pas allée dans ce détail-là. Là, on vous a présenté un PLH où la communauté de communes va avoir une compétence habitat avec une vraie dynamique pour avoir une capacité d'acquisition foncière. Après, je pense que les deux sont possibles. C'est-à-dire à la fois les communes et les communautés de communes peuvent conventionner.
Et là, il y a des projets pour cette année pour,
Non. L'idée, c'est de mettre une brique de plus dans les outils qu'on peut avoir pour redynamiser le centre-bourg. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet spécifique à vous présenter.
Et après ça, la commune ne peut pas préempter quelque chose sans passer par vous.
Alors, en fait, on peut préempter, mais on n'est pas obligé. Enfin, préempter, ça ne veut pas dire qu'on passe par eux. Là, ce qui est intéressant avec le PF, préempter, ça veut dire que grosso modo, il n'y a pas de négociation et vous vous substituez au vendeur, à l'acquéreur. Là, avec le PF, ce qui est intéressant, c'est que si jamais il y a un bien où vous dites il y a un commerce qui est fermé ou autre chose, vous dites ce qui serait bien, c'est se porter acquéreur. Sauf que c'est toujours compliqué pour la collectivité aidant d'avoir l'ingénierie pour pouvoir faire les études immobilières, les travaux à faire, donc ça, ils peuvent le faire. C'est toujours compliqué aussi d'aller négocier avec un propriétaire quand vous êtes maire. Et donc, eux peuvent aller négocier et porter le projet. Et en plus, ils font du coup un portage financier tant que vous ne commencez pas les travaux. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que si jamais vous avez un bâtiment qui est en péril et que les propriétaires n'ont pas les moyens et que la commune dit il est bien placé, voilà, ils peuvent se porter acquéreur. Et bien sûr, il y a un projet qui a été validé par le conseil municipal. Et ils peuvent réaliser les travaux eux-mêmes pour éviter la mise en péril. Et c'est qu'après que la commune, là, peut l'acheter. C'est le seul moment où l'EPF peut faire les travaux sans que la commune les rachète immédiatement.
Ça
dites-moi. Comment ?
C'est un marchand de biens ? C'est un genre de marchand de biens ?
Non, tu ne fais pas de bénéfices. C'est plutôt une aide foncière pour les collectivités.
Une aide qui se paye.
Pas par nous, non.
Oui,
il y a des subventions, il y a des...
À la fin, quand on récupère, il faut payer.
C'est juste une interface entre nous pour l'acquisition. Mais bien sûr, on paye le bien. C'est évident. Mais ça ne veut dire pas qu'on rémunère pour cette prestation.
Par exemple, si...
Après, le PF est financé par des dotations, par des contributions.
Par exemple, alors je vais donner un exemple idiot, sans doute. La médiathèque, elle est en péril.
Non, c'est pas un bon exemple, parce que la médiathèque, elle appartient à la collectivité.
C'est juste exprès que je donne l'exemple.
D'accord.
La médiathèque est un immeuble en péril. C'est moi qui le dis, c'est pas vrai. La commune n'a pas les moyens de restaurer cette médiathèque. Est-ce que ce PLD peut le faire et puis ensuite procéder à la commune au bout d'un an?
Mais non, là c'est une question plutôt d'acquisition de propriété, d'acquisition de foncier.
On ne peut pas quand même obliger les gens à vendre.
Ah ben non.
Non, mais c'est ça que je veux dire. Parce qu'on ne peut préempter qu'une vente.
Mais je ne parle pas de la préemption. Là, je parle d'une négociation de gré à gré avec, avec quelqu'un qui est vendeur. C'est même avant que la vente soit actée, avant que la DIA, la déclaration d'intention d'aliéné, soit envoyée à la commune.
Et sur les logements vacants du centre-ville, alors, c'est pas ça finalement que je voulais en
venir. Justement, c'est un bon outil pour aller contacter les propriétaires par un tiers qui n'est pas la collectivité, donc ça évite peut-être des demandes de services en échange de la cession, j'imagine. En tout cas, ça donne plus d'objectivité et pour pouvoir acquérir si jamais ces logements sont vacants. Enfin voilà, c'est un bon outil en tout cas. Je pense que c'est un outil qui aujourd'hui ne coûte rien et qui nous permet de pouvoir avancer. Et un portage financier pendant au moins 5 ans si jamais on ne décide pas de faire des travaux avant. Si vous n'avez...
Oui.
Non, alors déjà, donc j'ai dit qu'en fait le PF ne pouvait faire des travaux qu'en dans un seul cas, en tant que propriétaire, c'est-à-dire avant que ce soit revendu à la commune, que dans le cas où il y a péril. Dans un cas où il n'y a pas de péril sur le bâtiment, dans ce cas-là, c'est la commune qui doit acquérir auprès de l'EPF, qui aurait été intermédiaire, porteur pendant un temps, pour pouvoir faire les travaux. Donc c'est tout. Et après, normalement, les vendeurs ne passent pas. L'EPF n'est pas une agence immobilière par laquelle les vendeurs vont passer. L'EPF, c'est juste que quand on définit avec eux un périmètre, il y a un périmètre qui vous est montré, on définit avec eux un périmètre sur lequel il peut y avoir une action de l'EPF parce qu'il y a un intérêt particulier. Là, c'est la question de l'intérêt de redynamisation du centre-bourg. Et sur ce périmètre, on définit avec la commune, enfin, nous allons définir en conseil municipal si jamais on en voit l'intérêt ou l'opportunité de dire, ben, ce bâtiment, il est fermé, peut-être qu'il serait bon d'aller contacter le propriétaire pour voir s'il est vendeur. Et dans ce cas-là, c'est l'EPF qui se substituera à la commune pour aller négocier et passer l'acte.
Mais il faut qu'il soit un péril.
Non. Non, j'ai juste dit...
La négociation.
C'est ça, exactement.
Mais pas les travaux.
Et les travaux, il faut que la mairie l'achète à l'EPF pour pouvoir réaliser les travaux. C'est qu'une question, c'est que s'il y a un péril, que là, elle peut se substituer et faire les travaux, qui seront bien sûr reportés sur le prix, évidemment. Est-ce que c'est bon? Je vous propose de passer au vote. Contre? Abstention? 2 abstentions. Approuvé, je vous remercie. Modification des statuts de la communauté de communes, cœur de Garonne. Donc, hop, on n'a pas de document. Si. Non, c'est moi. Donc, juste vous dire qu'il y a une modification des statuts. Demandé d'un rajout sur la question de la compétence de la culture, de rajouter l'organisation, la coordination et la promotion d'une programmation culturelle communautaire. Donc il faut voter sur ça. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce point.
C'est... Par rapport à avant, c'est quoi qui change?
Et donc en fait là, il se dote d'une compétence, enfin il complète la compétence culture du fait essentiellement. Déjà de permettre de pouvoir peut-être animer, organiser des activités, des programmations culturelles, mais aussi et surtout, c'est que dans la fusion que nous avons eue des trois intercommunalités, il y avait une manifestation qui s'appelle des arrêts des feux à Martre-Tolosane, qui était financée par l'ancienne communauté de communes et qui est en fait une programmation culturelle. Et donc du coup, pour pouvoir exercer tout ça et que ce soit clair avec les statuts, eh ben, il faut rajouter cette ligne. Ça donnera aussi la possibilité à la communauté de communes de pouvoir aussi organiser des manifestations culturelles.
Ailleurs.
Donc là, je vois qu'il y a une convention de projet, de service, c'est cette partie-là. Je ne suis pas trop en avant.
Je ne sais pas où vous en êtes là.
Le point 4.
On est au point 4. Modification des statuts de la communauté de communes Cœur de Garonne.
D'accord.
Voilà. Non, pas de souci. Donc si vous n'avez pas d'autres questions sur ce point, je vous propose de passer au vote. Contre? Abstention? Approuvé, je vous remercie. Avis sur le transfert de la compétence assainissement à la communauté de communes Cœur de Garonne. Alain, est-ce que je te laisse te présenter?
Oui. Donc, comme il était déjà prévu, le transfert de la compétence assainissement aux communautés de communes à partir du 1er janvier 2020, la communauté de communes, nous sommes en charge de délibérer sur cette adhésion au niveau assainissement ou pas. Alors, je vous rappelle que nous venons d'adhérer, et ce depuis le 1er janvier 2019, au SMA pour la compétence assainissement et collectif. Nous avions déjà au SMA le traitement du non collectif. Il est souhaité et souhaitable que nous opposions au transfert de la compétence d'assainissement à la communauté de communes du Cœur de Garonne au 1er janvier 2020, d'autant plus que la communauté de communes du Cœur de Garonne sera obligée de transférer cette compétence dans un deuxième temps à un réseau, soit comme le CMA, soit comme d'autres intervenants dans ce domaine-là, puisqu'on a mis les moyens. Pour le moment, pas la compétence, tant qu'on ne lui accorde pas. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'attendre la date, j'allais dire, fatidique du 1er janvier 2026, qui nous permettra d'avoir une bonne réflexion sur la démarche qu'a entamée le SMA sur notre réseau.
Il me semble qu'on était pour, on était parti pour adhérer au départ.
Au SMA, oui.
Oui.
Nous avons adhéré au SMA. Oui.
Là, c'est la question.
Là, vous avez dit que ça passe en communauté de communes en 2020.
Mais, les nouvelles dates, si vous voulez, alors 2020, la date d'échéance sera 2026, puisqu'elle a été reportée de 6 ans. Et donc, le choix, il n'y a pas de raison qu'on se précipite, si vous voulez, à transférer la compétence assainissement, alors qu'on vient de le faire auprès du SMA. À la communauté de communes.
Ça obligerait quoi ?
Ça va être très court.
Oui. C'est un transfert un petit peu stérile, puisque la communauté de communes a pris la compétence eau, surtout pour son réseau d'eau potable, mais qu'elle est obligée de transférer d'une part au syndicat des coteaux du Touge dans l'exploitation et au SMA aussi d'ailleurs qui traite la partie eau potable. Donc on ne va pas, nous, prendre la prérogative, j'allais dire rien, de transférer une compétence assainissement alors qu'on l'a déjà au SMA et qu'elle couvre la totalité de nos engagements au niveau assainissement. Donc il n'y a aucune raison, parce qu'on a quand même, reste pour nous, rien, et pour d'autres communes d'ailleurs, de l'ancienne communauté de communes Savès, la compétence au potable est exercée par le syndicat des Coteaux du Touche. Donc nous adhérons pour l'eau potable au syndicat des Coteaux du Touche. Mais nous n'adhérons pas pour cette chose-là à la communauté de communes. Si vous voulez, la communauté de communes a pris effet sur l'eau potable, mais pour le moment, elle ne gère rien. Elle transfère toute cette gestion au syndicat des Coteaux du Touche. Je ne vois pas la nécessité d'adhérer à la communauté de communes pour l'assainissement, alors que l'assainissement va être géré. Alors là, j'allais dire, pour 80% des communes du territoire, il est géré par le SMA. Je ne vois pas l'intérêt de faire un doublon pour le moment. Attendons de voir venir les choses, que la communauté de communes se précise, prenne ses propres décisions, parce que là, à l'heure actuelle, nous n'aurions aucune personne, tant au niveau administratif qu'au niveau technique, pour suivre la compétence à la communauté de communes. Ça voudrait dire qu'au moins dans un premier temps, il va y avoir de l'embauche à la communauté de communes. Je ne suis pas sûr que ce soit la première nécessité. Voilà.
Ce qui aurait été intéressant, mais bon, ça a un double, c'est que le syndicat des eaux puisse facturer l'assainissement commun. Ce qui veut dire qu'en même temps, être obligé de facturer l'assainissement commun, ça fait une double facturation.
Alors, après, pour la petite histoire, Madame Maury, derrière, il y a des tractations qui se passent entre les syndicats qui nous dépassent complètement. Monsieur Vincini travaille énormément à avoir un réseau très influent sur l'assainissement et l'eau potable. Le syndicat des Coteaux du Touche maintient pour le moment sa position, je ne sais pas jusqu'à quand et comment. Le meilleur compromis possible, puisque j'y ai assisté et c'était un compromis que j'avais demandé pour Yum, c'est que les deux syndicats s'entendent et qu'il y ait un partage de travail entre les deux syndicats, tout simplement, hein, en sachant que quand même, notamment pour l'assainissement, c'est une grande partie des communes qui adhèrent au syndicat des Coteaux du Touge, qui, pour lequel, pour ces communes-là, le syndicat des Coteaux du Touge fait la facturation pour le SMA.
Oui.
On va y arriver, mais ça me paraît très long administrativement, et pour avoir rencontré la trésorerie principale de Toulouse qui gère le SMA, c'est un débat administratif qui nous et comptable qui nous dépasse complètement.
Oui, et ce qui est dommage aussi, parce que quand même le syndicat des eaux a toujours été... Il n'y a jamais eu de problème quoi, pour la gestion, la facturation et tout ça, il n'y en a pas de problème.
On l'a évoqué maintes fois, Madame Maureen, vous savez que c'est ce qu'on a défendu, mais à un moment donné, puisqu'on pensait pouvoir adhérer pour l'assainissement collectif au syndicat des Coteaux du Touge, mais à un moment donné, là aussi, il faut des armes. Pour adhérer à un syndicat d'assainissement, il faut qu'à un moment donné, vous ayez des moyens d'intervention sur la commune, et on va pas aller dans une communauté ou un autre syndicat qui n'a aucun moyen technique pour intervenir. Et en sachant qu'à un moment donné, on va repasser le bébé à quelqu'un d'autre, si vous me permettez cette expression. Merci de le reconnaître.
Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de procéder au vote.
Et les autres, qu'est-ce qu'elles disent, les autres communes ?
La même chose.
On est dans le même cas.
Tout le monde est d'accord avec ça sur l'interco.
Oui, comme si.
De toute façon, il vaut mieux être cohérent. Et je crois que s'il y en a un qui vote contre, je crois que ça passe pas.
C'est ça.
Je vous propose de passer au vote. Donc, il est proposé donc, de rejeter, de reporter à 2026
le transfert,
de s'opposer. Donc, si vous dites que vous êtes pour, c'est-à-dire que vous êtes contre, exactement.
Voilà.
Donc, si vous êtes pour ce qui est proposé, enfin, si vous êtes contre, abstention, ok. Deux abstentions, excusez-moi.
Oui,
deux abstentions. Trois, ok. Désolé, c'est un peu kafkaïen comme présentation.
Je que c'est pas celle de la pompe,
hein. Il faut s'opposer au lieu
d'approuver. Non, il y en a trois. Monsieur Estrounès, Madame Montaud, Monsieur Solam. Approbation de l'avenant numéro 1 au lot 1, gros œuvre, marché de travaux d'étanchéité du grand bassin de la piscine de Rium. Là, je te laisse toujours la parole.
Oui. Alors, il s'est prouvé que dans la préparation des travaux pour les interventions dans le grand bassin de la piscine de Rium, les services techniques, bien entendu, ont aidé à cette préparation de chantier, notamment en vidant les bassins et en nettoyant tous les bassins. Et nous nous sommes rendus compte au moment du nettoyage de la pataugeoire qu'une partie de la faïence, à la fois celle du fond du bassin et celle des parois verticales, était complètement décollée. On a profité, tout simplement, je vous propose de profiter de la présence d'une entreprise qui s'est arrivée à verrer être très sérieuse dans sa réalisation des travaux de gros œuvres sur la piscine qui sont effectués à ce jour. Hein. On pensait profiter de la présence de cette entreprise pour sécuriser cette pataugeoire hein, qui représente un gros danger pour les enfants puisque bien entendu ces mosaïques qui sont défaites ont des côtés tranchants, etc. Et donc on vous propose un avenant pour la reprise de la pataugeoire pour la préparer pour la saison prochaine. C'est-à-dire dans pas longtemps, pour un montant donc, de travaux de 2 900 €, qui consiste donc à, bien entendu, un nettoyage haute pression de la pataugeoire, le sondage des carreaux, le scellement ponctuel et le rejouettement au mortier adapté de couleur blanche. La conclusion de cet avenant a pour effet de porter le montant du marché de 134 993 € hors taxe à 137 893 € portable. Je vous demande donc d'approuver la conclusion de l'avenant numéro 1 au long 1 conclu avec la SAS au Gland dans le cadre du marché de travaux d'étanchéité du Grand Bassin de la piscine d'Orléans et d'autoriser Madame le maire à signer l'avenant d'un montant de 2 900 €.
Oui,
alors les travaux de la pataugeoire. Ils n'étaient pas prévus dans la phase 3.
Ils étaient prévus dans. Oui, enfin, il y a une. Ce qui est prévu dans la phase 3, c'est quand même de faire un espace enfant ludique, donc une transformation complète de la pataugeoire.
D'accord.
Hein? Mais à l'heure actuelle, il nous paraissait nécessaire d'assurer, si vous voulez, la sécurité de cette pataugeoire pour la prochaine saison. Parce que dans la phase numéro 3, on est loin de cette somme-là, hein, parce que c'est vraiment un espace enfant, avec réfection du fond de bassin, etc.
Et ça n'avait pas pu être évalué avant, ça, ou la semaine
prochaine. En fait, avant, on ne s'était pas rendu compte que ces mosaïques, si vous voulez, quand on a donné, nous, notre coup de Karcher pour faire un premier nettoyage de la piscine, les mosaïques se sont soulevées. Je pense que c'est suite à l'hiver, si vous voulez, c'est souvent ce qui se passe, les cols s'imprègnent, le gel décolle la mosaïque, mais on ne s'était pas occupé très honnêtement de cette pataugeoire jusqu'à maintenant quand on prépare la piscine pour l'été. Voilà. Donc ça, effectivement, si on avait peut-être fait attention, il y avait un problème, mais je ne suis pas sûr qu'on ait vu quoi que ce soit, parce qu'on s'en aperçoit maintenant.
La municipalité Clamence avait refait la pataugeoire entièrement. Quand même, c'est fini, la décennale, c'est terminé.
La pataugeoire. Il y a eu des améliorations de fait, mais la mosaïque, elle date. Hein.
Oui, mais enfin, bon, il aurait pu le voir quand même au début, le maître d'œuvre, il aurait pu le voir avant. Puisqu'il l'avait porté sur la phase 3, il le met sur la phase 1.
Mais vous n'avez pas écouté la réponse.
Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes travaux. Si vous voulez, ici, on sécurise la pataugeoire, point. Après, dans la phase 3, vous avez la réalisation d'une pataugeoire comme on voit dans les espaces publics modernes, avec jeux d'enfants dessus, et c'est un, j'allais dire, c'est une plateforme scénique, c'est-à-dire que vous avez l'eau en surface, sur environ 5 à 10 cm, c'est plus du tout une pataugeoire, si vous voulez, ce qui est prévu dans la phase 3.
Un champignon.
Mais c'est ce qu'on voit dans tous les ensembles de piscines refaits à l'heure actuelle.
Non, mais ce que dit Mme Bory, elle a peut-être raison, parce que vous parlez de scellement ponctuel, ça veut dire que s'il y a un carreau qui a cassé, il lâche, le restant n'a pas terminé.
Oui, c'est scellement ponctuel et c'est les garnissages, parce que oui. Ça sera du garnissage à un moment donné. Mais bon, on a eu, si vous voulez, j'allais dire, dans la réponse à l'appel d'offres, on a une entreprise de gros œuvres. Il s'est fait une spécialité de l'intervention en piscine et écoutez, franchement, si vous voulez voir le travail qui est fait, passer à la piscine, vous verrez un peu ce qu'a réalisé l'entreprise. Je pense qu'on...
Non, mais on
met pas le maître d'œuvre a fait un choix judicieux sur cette entreprise, franchement. Voilà. Donc, on a pensé à la compétence de l'entreprise et c'est vrai que c'est la meilleure réalisation. Je rajouterai qu'on a tenté avec le responsable des services techniques de chiffrer la dépense matériaux pour reprendre justement cette pataugeoire. On a arrêté de chiffrer parce qu'on est rapidement arrivé au-dessus de 1 000 euros de fourniture. J'allais dire, bon, après, si vous regardez la part main d'œuvre, effectivement, l'entreprise, elle ne travaille pas pour rien, on est bien d'accord. Oui, mais sur cette pataugeoire, il y a quand même 2 jours de travail à deux bonhommes. Donc, comme vous voyez les tarifs d'entreprise à l'heure actuelle, le prix, on ne va pas dire qu'il est faramineux, mais bon.
J'appelle le loup, c'est comment voilà.
Oui, mais là, voilà. Le problème, c'est que c'est un marché de gré à gré, ce n'est pas le lot numéro 1. Ce n'était pas inclus dans le lot numéro 1. Donc, ça ne peut pas être un avenant au lot numéro 1. Si c'est un marché de gré à gré, c'est indépendant.
Si, parce qu'on a fait un programme d'ensemble qui est un programme piscine, et si vous vouliez, ce programme piscine prévoit plusieurs stades, effectivement, mais rien ne nous empêche de coller, j'allais dire, à la première réalisation une partie des travaux à venir.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait, là, depuis, sur le numéro 1, mis à part ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ben, tout le remplissage de piscine est fait, la transformation du pédiluve.
Oui, non, mais ça, c'est sur le gros, sur la grande piscine.
Le remplissage du bassin.
Le remplissage
du bassin. Le fond de piscine a été rehaussé. Voilà, c'est pour ça. Après, ça fait partie des travaux qui ont déjà été décrits. Hein.
Pour moins de gaspillage d'eau,
une gestion meilleure, si vous voulez, par rapport à la pompe directe que nous avons à l'heure actuelle, puisqu'il est prévu dans le futur de mettre une deuxième pompe qui devrait permettre de mieux traiter les eaux. Et en même temps des bacs de rétention qui nous permettraient aussi de récupérer les eaux de piscine. baignade et de les réutiliser, de les réinsérer dans le circuit.
Et il sera étanche.
Et surtout, il sera étanche, voilà. Puisque par ce système-là, on résout le problème de fissure que nous avions dans le grand massif.
Et alors, le lot 3 qui est estimé à 800 000 euros, il sera quand?
Il y a pas. Déjà, il n'y a pas de lot 3. Et ensuite, la phase. Non, vous parlez de phase de travaux. Donc, on a demandé au maître d'œuvre, bien entendu, puisque nous ne sommes pas en capacité. De faire en capacité financière de faire un aussi gros chantier, et on recherchera aussi du financement à ce niveau-là. Donc on a traité, si vous voulez, pas l'urgence, étant l'étanchéité du bassin et de ramener la consommation d'eau à un niveau raisonnable. Deuxième temps, et donc deuxième phase, l'amélioration des circuits avec l'amélioration du traitement de l'eau et la récupération des eaux de baignade. Et troisième phase, l'aménagement, j'allais dire, à la fois l'aménagement accessibilité que nous avions déjà commencé dans un premier temps, avec le remplacement des menuiseries, etc. Donc tout ce qui est bâtiment, et finir justement dans un troisième temps la patevoire pour le transformer vraiment en espace public.
Parce que, excusez-moi.
Mais il n'y a pas, on n'a pas fait à l'heure actuelle un calendrier. Il est bien évident qu'on parle de sommes conséquentes. Enfin, que parlant de sommes conséquentes, il va falloir regarder avec la trésorerie de Lyon.
Pour la première phase.
Pour la première phase.
Uniquement.
Le marché n'est signé que pour la première phase.
Oui.
Pourquoi on a voté le...
On l'avait expliqué la dernière fois, c'est parce qu'en fait, le service de l'État nous ont dit que si on présentait un projet global important, on pourrait obtenir d'autres subventions. Et c'est pour ça qu'en fait, comme on avait déjà un projet sur lequel Alain avait travaillé déjà avec la communauté de communes 2-3 ans avant, on avait déjà quelque chose de tout prêt, on a profité de l'occasion de ce que nous proposait les services de l'État pour déposer un deuxième dossier plus important de subvention, ce qui nous a permis d'avoir la DETR et le FNADT.
Ça fait quoi, la DETR, c'est quoi, combien?
C'est 30, en tout, je crois qu'on a 36%.
Les deux
cumulés, on a 36% sur la première phase des travaux.
Sur la première phase.
Oui. Ce qui est plutôt bien, puisque en fait c'était quand même des travaux en urgence et qu'on a réussi à avoir ces subventions en moins de deux, en un mois.
Et avant, qu'est-ce qu'ils avaient fait alors? Parce qu'ils ont travaillé pendant 2 ans. Parce que là, en 2017, il y a 28 000 euros d'eau de piscine et d'assainissement.
Oui.
Et en 2018,
quand vous reprenez l'historique, c'est pas très compliqué. On a refait l'ensemble des canalisations. Vous le savez, puisqu'on a ouvert les plages, Une pompe, la pompe qui était en place, qui était en service, a été changée. Les filtres ont été réparés. C'est des travaux. On essaie, si vous voulez. Moi, j'ai essayé tout bêtement, en raisonnant. Peut-être que c'est mon côté entrepreneur qui a permis ça. En raisonnant par étapes, de faire des étapes qui soient constructives. C'est-à-dire, ce qu'on a fait n'est pas retouché. C'est chaque fois amélioré. Voilà. Donc là, c'est encore une amélioration. Bien entendu, très pertinente, puisqu'il y avait une fuite importante au bassin, et qu'à un moment donné, on arrivera quand même à colmater cette fuite-là.
Personne ne dit le contraire, monsieur Hussain. Personne ne dit le contraire. Ce que je vous disais, c'est que...
J'essaie simplement de vous expliquer. On n'est pas ni dans aucune contrariété, là. Pas pour le moment. Ça dépendra de ce que vous me direz.
Ce que je disais, c'est qu'ils ont déjà travaillé, puisque en 2017... Il y avait 28 000 euros d'eau et d'assainissement, et l'année dernière, il n'y en a eu que 10 000 ou quelque chose. Donc, ils avaient quand même déjà fait du travail.
Ah oui, bien sûr, c'était les objectifs.
On va essayer d'améliorer encore, justement, puisqu'on a perdu énormément de mètres cubes d'eau l'année dernière, encore, et qu'il faut arriver à une solution ultime. Bon, ce bassin, on ne peut pas avoir une passoire à la place de ce bassin. Ce n'est pas possible. Voilà, on a résolu, si vous voulez, toute l'eau qui est partie dans les canalisations. Ça, c'était les travaux précédents. Maintenant, on résout le problème d'infiltration d'eau sous la piscine.
On a compris qu'il faut sauver la piscine de Rieul, on met des rustines. Donc, pour l'instant, ça tient.
Non, là, c'est pas des rustines.
Avant, on mettait des rustines, parce que nous, on l'avait fait aussi.
Non, là, ce sont pas des rustines. Là, ce sont des travaux pérennes.
On mettait des rustines.
Non, là, ce sont des travaux qui sont pérennes.
C'est sûr.
Ah, ben non, c'est pas la même chose que des rustines. Des rustines, c'est fait pour pas durer.
L'enveloppe sera neuve. Voilà.
Nous, on en avait mis.
Ça joue à sur les
mains.
Du coup, je vous propose de passer au vote. Contre ? 2 contre, abstention, 2 abstentions, approuvé, je vous remercie. Nous passons au point suivant, la convention de service médiathèque départementale. Donc le département a fait le constat qu'il y avait une convention unique qui était parfois obsolète sur certains points, et du coup aujourd'hui il propose 3 types de conventions qui se substituent à cette convention unique, et il faut choisir une des 3 conventions qui est proposée, selon celle qui s'adapte au mieux de l'offre que l'on peut faire sur le territoire. Nous, ce qu'on vous propose, c'est la convention numéro 2, qui est une intermédiaire entre très peu d'ambition et une très grande ambition sur la médiathèque, puisqu'aujourd'hui, on est sur un projet de médiathèque, de travaux de médiathèque, donc on peut espérer que plus tard, on aille sur la première convention qu'il propose, la plus ambitieuse. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est la convention numéro 2. De service. Normalement, vous avez le détail. Je ne sais pas si vous voulez que je vous en fasse lecture, mais grosso modo, c'est le conventionnement classique. Donc, la bibliothèque fournit à sa population un service de lecture publique approprié. Les engagements de la collectivité se bornent alors à viser un budget minimal de 2 euros annuels par habitant, dont un budget d'animation minimum de 8,5 euros annuels par habitant, avec une amplitude horaire normative qui est déjà normée dans les documents du conseil départemental, ce qui nous permet du coup, si on s'inscrit dans cette dynamique, d'avoir accès à l'ensemble de l'offre de la médiathèque départementale 31 et la garantie d'une animation tous les 2 ans. Voilà. Pardon ?
On n'avait pas ça.
Si, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on a aujourd'hui, sauf qu'ils ont fait des conventions un peu différentes en fonction des offres qui étaient sur les territoires. Il y en a une qui est beaucoup moins ambitieuse, et une qui est un peu plus ambitieuse, sur laquelle on pourra peut-être envisager d'aller plus tard, mais aujourd'hui, en l'état de notre médiathèque, on vous propose de rester grosso modo étal sur le budget que l'on a, et voilà, avec la même offre. Mais pour ça, il faut passer ça en conseil municipal.
Je voulais juste savoir combien il y a d'agents qui travaillent à la médiathèque.
2.
Ils y sont tout le temps.
Sauf en cas de congé, mais oui.
Oui,
ils sont tout le temps. Oui. Du coup, je vous propose de procéder au vote.
Non, vous riez, mais je dis pas ça pour...
Non, mais c'est une question de responsabilité, si un agent est tout seul.
Si un est tout seul, ça arrive quelque chose, ça peut incomber à la commune.
Tout à fait. Je vous propose de passer au vote. Contre, abstention, approuvé, je vous remercie. Convention de servitude concernant donc les travaux que va faire le SDEG. Alain, je te laisse la parole.
Donc, ça concerne tout simplement le passage de la ligne électrique qui partira du côté de la gendarmerie pour traverser l'espace public que nous avons le long de la rue Sagazan et pour alimenter le côté City Park. Voilà, tout simplement. Donc, il faut une convention de servitude pour le passage de cette ligne électrique sur notre parcelle, puisque cette parcelle commence en bordure de voirie.
Est-ce que vous avez des questions ?
On n'a pas déjà voté ça ?
Non, on l'avait voté pour l'avenue de la Forêt. Pas pour le City Park.
Si, on a voté pour le City Park.
Non, mais on a...
Non, on avait voté un projet de travaux, mais pas la servitude.
Le projet, on n'a pas la convention de servitude, si vous voulez, pour le SDEG, c'est-à-dire pour l'entretien de la ligne électrique, tout simplement. Voilà, qui n'a pas été voté.
Et il faut une servitude, même si les parcelles appartiennent à la mairie, en fait.
Oui, bien sûr.
C'est ça.
Vous donnez le passe sous la départementale.
Non, il y a une partie propriété de la mairie.
Parce que
la voirie est départementale, on est d'accord. La ligne électrique qui abonde le réseau se situe du côté de la gendarmerie. Donc, si vous voulez, pour traverser, il y a une traversée de la départementale, mais là, le département ne va pas se demander à lui-même s'il est autorisé ou pas à intervenir. Mais par contre, à partir des platanes jusqu'à l'entrée du City Park, nous sommes dans le domaine communal, c'est une parcelle communale, et donc vous avez une servitude de passage, mais comme tous les réseaux aériens que nous avons sur Yum, elles sont quelquefois d'ailleurs chez des particuliers, ces conventions. Voilà. Nous, là, on a besoin d'une convention.
C'est gratuit ça, ou il y a un coût ?
Non, il n'y a pas de coût, c'est une convention de servitude, en fait, c'est pour l'entretien des lignes, tout simplement.
Et parce que quand même la dernière fois...
Relevez bien les temps.
Pardon ?
Relevez bien les temps.
Sur le SDEG.
Oui, mais vous savez, il suffira de suivre la ligne.
Monsieur Lécussa, on a voté 2 fois. Pour l'éclairage du City Stade, on a voté 2 fois. La dernière fois, il y avait écrit qu'il y aurait une sud de 70 mètres pour accéder depuis le... On l'avait, le même plan. Alors pourquoi on le reprend maintenant? C'est tout. Parce que c'était voté, c'était acté.
Il était dit, mais là, c'est la convention. Là, il faut aller plus loin, il faut voter
la
convention.
Donc, il fallait la convention avant, finalement.
Non, pas forcément. Ben non, il faut déjà s'engager à faire ce qu'on veut, réaliser ses travaux. Et une fois qu'on s'est engagé à réaliser ses travaux, dans ce cas-là, il faut effectivement voter la convention. On ne peut pas donner convention à quelqu'un si on n'est pas d'accord sur les travaux qui vont être réalisés.
Voilà. On peut le faire en même temps.
On pourrait le faire en même temps aussi. Du coup, je vous propose de passer au vote. Contre, abstention, approuvé, je vous remercie. On passe au point 9, fixation des tarifs municipaux. Est-ce que tu voulais présenter justement ? Merci. Donc, vous avez d'abord un premier tableau concernant la tarification applicable à l'occupation du domaine public, donc qui reste inchangé, et aussi les tarifs municipaux. Est-ce que je vous le dis ? Non. Donc, comme il n'y a rien qui a changé, est-ce que vous m'exonérez de la lecture fastidieuse de chaque ligne ? Non ? Est-ce que vous avez des questions ?
Moi, je les ai posées.
Et on vous a répondu. Du coup, je propose de passer au vote. Contre, deux contre, abstention, approuvé, je vous remercie. On passe au point 10, tarification d'occupation de domaine public pour les forains, pour la fête locale de Saint-Gilles. Là aussi, les tarifs restent inchangés. Je vous remercie de m'exonérer, si vous voulez bien, de la lecture par chaque manège. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous propose de passer au vote. Contre, abstention. Approuvé, je vous remercie. On passe au point 11, location du local situé au Prunus, fixation du tarif. Donc, juste vous dire qu'il y a un petit local dans la résidence des Prunus. Je ne sais pas, Pauline, est-ce que tu veux présenter ce point ?
Oui, c'était un petit débarras qui servait pour les différents locataires qui étaient là, qui en ont déjà à chaque main. Et il y avait plus souvent des choses à jeter dedans. On a fait un nettoyage. Il y a une personne qui aujourd'hui avait des prénus et qui nous a demandé un local pour pouvoir mettre une moto. Et donc on lui a dit qu'il n'y avait pas de souci et qu'il aurait à payer ce petit local, cette petite location. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions ?
Il y en a pas d'autres de ces locaux-là à louer ?
Donc, je vous propose de passer au vote. Contre, abstention, approuvé, je vous remercie. On passe au point 12, montant du loyer, logement numéro 7, Prunus.
Là aussi, les locataires, les précédents locataires sont partis, ils ont été complètement passés, et il y avait quelques travaux à faire. Et j'ai envie en effet qu'on pouvait faire des travaux et eux ont acheté du matériel, il y avait des portes de placard à changer et donc ils ont acheté ce matériel. Et donc c'était pas comme ça au départ que je l'avais prévu pour faire le diagnostic. On leur avait dit que la mairie allait le faire et on s'est mal compris, je me suis certainement pas mal expliqué. Donc ils ont acheté le matériel, donc, peu importe. Il a été dosé et donc aujourd'hui il faut les rembourser. Donc, comme on ne peut pas les rembourser comme ça, on propose de leur diminuer le prochain loyer. Ce sera une exception. Les autres loyers seront du même montant qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Pour nous, la mairie, ça revient. Est-ce que on n'a pas eu à faire les travaux, c'est eux qui les ont fait.
Est-ce que c'était écrit dans le bail qu'ils devaient faire ça ?
Non.
Il y avait un état des lieux au départ. Ça a été noté dans l'état
des lieux. Oui,
il
y a l'état des lieux.
C'était marqué dans l'état des lieux que c'était à refaire.
Oui.
Et
que c'était à lui de
voir. Non, vous avez écouté.
C'était
pas lui. Et en fait, ils sont allés plus vite que nous. Et voilà. Et bien sûr, exactement, les éléments resteront quand ils partiront.
Ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas
le 50 euros. Ça veut dire que, bon, si on est toujours sur le même principe pour tout le monde, ça veut dire que quand on refuse à des associations de faire des travaux dans des locaux de la mairie, on doit refuser aussi à des locataires de faire des travaux.
Après, c'est le changement de deux. C'est plutôt l'acquisition du matériel, c'est pas tellement les travaux, c'est le changement.
Qui c'est qui a fait les travaux ?
Mais non, ça s'appelle pas des travaux. Quand vous changez une porte d'un tiroir, ce ne sont pas des travaux. C'est plus l'acquisition du matériel. On ne le paye pas pour avoir fait les travaux. C'est plus l'acquisition du matériel. Si vous changez un mitigeur d'un robinet, c'est pas, on ne peut pas appeler ça des travaux. Enfin, en tout cas, sinon, je suis professionnelle du bâtiment. Je vous propose de passer au vote. Contre, abstention, 2 abstentions. Approuvé, je vous remercie. On passe au point 13, recrutement d'agents contractuels sur les emplois non permanents, accroissement temporaire d'activité. Apolline, je te laisse la parole.
Oui, donc considérant qu'il est nécessaire de recruter les agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire au sein des services techniques et des services administratifs, il est proposé d'approuver le recrutement d'agents contractuels pour une période maximale de 6 mois et 15 jours avant le 15 juin 2019 au 31 décembre 2019, inclus comme suit. 2 postes d'adjoint technique entre 25 et 35 heures. Pour une période maximale de 2 mois, allant du 1er août 2019 au 30 septembre 2019, inclus comme suit, 1 poste d'assistant de conservation du patrimoine et de bibliothèque à 35 heures. Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Donc, le deuxième poste, c'est pour que l'archiviste puisse finir la mission qu'elle avait commencée. Il lui manquait un mois ou deux mois. Pour finir l'archivage correctement. Elle n'avait pas eu l'occasion de pouvoir prolonger sa mission parce qu'elle était engagée par ailleurs. Et donc, du coup, on renouvelle cette ouverture de poste pour pouvoir l'accueillir à nouveau et qu'elle puisse finir sa mission. Est-ce que vous avez des questions ?
Donc, il y a une pour l'archivage.
Et après, le reste, c'est pour des services techniques. En cas de nécessité, on sait que l'été, il y a toujours plus de tontes, plus d'activités, il y a préparation de la fête, il y a plein de choses. Et donc, on préfère, ça ne veut pas dire qu'ils seront remplis, mais on préfère pouvoir se permettre de recruter. Il y a la piscine.
Local, pour le
c'est plus que pour l'été, parce que sinon...
Oui, enfin, il y a l'amplitude. On se laisse de la marge. C'est local, c'est en fonction de ce qu'on trouve.
Compétences.
Des compétences. On privilégie quand même les compétences. Je vous propose de passer au vote. Contre, abstention, 4 abstentions. Approuvé, je vous remercie. Point 14, recrutement d'agents contractuels sur emploi non permanent, accroissement saisonnier d'activité. Donc, Apolline ?
Pour la piscine.
Oui, pour la piscine.
Pour la piscine municipale, durant la saison estivale. Il est proposé d'approuver le recrutement d'agents contractuels pour la période, notamment du 1er juin 2019. 2 postes d'éducateurs des activités physiques et sportives pour une durée hebdomadaire comprise entre 18h et 35 heures pour assurer la surveillance de la piscine municipale. Et 1 poste d'adjoint administratif au premier échelon à 35 heures pour le test. Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Est-ce que vous avez des questions ?
Oui, c'est M. Duré qui est
là. Là, on devrait avoir 2 maîtres nageurs sur normalement 18 heures.
Il était parti à la retraite ou il avait fait le départ ?
Oui, mais il peut, en demandant toutes les autorisations auprès du service de l'État, il peut continuer à exercer.
Il aura le souffle.
Oh, je pense. Il a l'air en forme. Hein. Je me battrai. Je ferai pas une compétition de lui à la nage avec lui. Je vous propose de passer au vote.
Excusez-moi. C'est pas plutôt le 6 juillet, non pas le 1er.
Si. Le 1er parce qu'en fait on ouvre au scolaire.
Il paye le scolaire ?
Non.
Non.
Mais il faut des maîtres. Mais il faut un maître nageur.
Je crois que c'était le caissier.
Il y a le poste du caissier dedans, mais le caissier, on va le recruter qu'à partir du 6. Par contre, les maîtres-nageurs, on en a besoin à partir du 1er. Là, vous nous donnez une autorisation, ça ne veut pas dire qu'on se colle à la délibération, c'est juste que vous nous donnez une amplitude sur laquelle on peut le faire. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de procéder au vote. Contre ?
C'est tout pareil pour l'histoire du un seul, alors qu'on pourrait travailler beaucoup de monde.
Abstention. Une abstention. Approuvé, je vous remercie. Là, maintenant, il y a un point divers, ce qui est le tirage au sort des jurés d'assises pour l'année 2020. Donc, il me faut des mains innocentes. On va peut-être prendre ceux qui sont à côté, ça évitera de faire. Alain et Jacques.
Alors, c'est d'abord la page et après la ligne.
On va pas se tirer.
Allez. Et il faut que les.
C'est la page et la ligne.
Il faut que les électeurs nés le ou après le 1er janvier 1997
7 soit écarté. Parce qu'il faut que les personnes aient au moins 23 ans.
D'accord. Donc je donne la page, tu dis le numéro ? Page 1. Non, page 7, pardon, page 7. Attendez, comment on fait ?
Je sais pas si c'est...
Elles sont dans l'ordre, hein ?
Non, les pages sont dans l'ordre, mais il y a
98
pages, et là tu n'as pas 98 jetons.
Non, mais parce que vous tirez la ligne.
Ah, moi je tire la ligne. Oui, pardon, excusez-moi.
Là, c'est la page.
La page 41.
Page 41. Ligne 3.
Ligne 3.
Comment tu comptes ?
1, 2, 3. Alors, Madame Arlette Frischia.
Ça s'écrit comment, Jacques ? Parce
que F-R-I-S-C-I-A. Et elle est née en 1940, donc elle n'est pas...
71.
Mais ce n'est pas à nous de vérifier les compatibilités ou les capacités. C'est pour ça qu'on tire au triple.
Ligne 25.
Non. C'est pour ça qu'on tire au triple. Il ne faut que 3 jurés. Hein. Nous en tirons 9 parce que... voilà.
Merci. 25. Il s'agit de Madame Odette Pazzotti. Donc... P-A-Z-O-D-T-I, Odette. Elle est née en 1942.
J'aurai le temps d'aller.
L'avant-dernier. Ah, c'est l'avant-dernier. Alors... Monsieur Matte Johan, mais il est né en 2000.
Non.
102.
102, 5.
Il n'y a pas 102 pages.
Ah,
attendez.
On en a mis de trop.
Non. 97, 98 pages.
C'est vrai que je t'ai répondu.
Bon, mais il y a 88.
88, mais bon, je...
Et 21.
Et c'est pas, elles ne sont pas numérotées.
25, 24, 23, 22, 21.
Alors, Monsieur Tégon, Michel... Tégon, T-E-G-O-N, Michel, et il est né en 82.
Bon, 81.
La ligne
7.
Pratique. Roman, Monsieur Roman, R-O-M-A-N, Alain, qui est né en 51.
21.
Monsieur Caz, C-A-Z-E-S, Frédéric. Il est né en 72.
47.
Oui.
5.
Alors, Monsieur Gross, G-R-O. 2S, Jérôme. Il est né en 82. Oui, ça risque de ne pas l'arranger d'aller. Madame Dome, D-A-U-M-E-S, Irène, qui est née en 1933. 11, oui.
10, à nouveau. Non,
10 encore. 9, 10. Alors, monsieur Blanchois, B-L-A-N-C-H-O-I-S, Thierry, qui est né en 64.
13.
Il en manque un.
13.
2.
2. Elle aussi. Madame Bonny, B-O-N-Y, Laurence, en 73.
Merci beaucoup. Oui, allez-y.
Je voudrais savoir pourquoi c'est pas clair qu'on ne règle plus le loyer depuis février.
Alors, on a répondu, je ne sais pas si vous étiez en copie, on ne règle plus le, parce qu'en fait, on l'a annualisé. On a convenu que c'était plus simple plutôt que faire des petits appels. Et donc, du coup, on appelle maintenant au mois d'août, ce qui leur va mieux au niveau trésorerie. Donc, on a fixé le mois avec eux. Et donc, on aura un règlement pour l'année au mois d'août.
Dans août, ils vont payer cette année-là ?
Oui.
Ils vont payer 2019-2020.
Avec le dégrèvement qui a pu être fait s'ils ont payé deux mois jusqu'à février. Jusqu'à
2019-2020.
Oui, exactement.
Plus ce qu'ils doivent de cette année.
Alors. Oui. Bah, les sommes ne sont pas énormes et franchement, plutôt que de faire une gestion de virement, voilà, on a préféré voir. Et ils ont beaucoup d'activités au mois d'août, donc c'était plus simple.
C'était prévu comme ça aussi là.
Oui, c'était prévu dans le bail comme ça.
Normalement, dans le timbre, ils auraient dû payer pour l'année, quoi, en fait. Puisque c'était prévu
au
bail.
C'était prévu comme ça, dans le bail qu'on a dit.
Au mois d'août ?
Non, c'était le 14 septembre, ça devait être payé
excusez-moi qui me trompe en vous disant août, mais en tout cas, c'est une fois par an. Quoi.
Non, non, c'est le bail prévoit un paiement unique annuel au 31.
Oui, normalement, comme le bail a été signé en septembre, dans le bail, il était prévu qu'ils devaient payer ce montant annuel au 1er octobre, je crois, ou 15 octobre, plus tard. Ils auraient dû payer 2019.
Alors, c'est 2018, 2019. Dans nos échanges, en tout cas, on avait convenu août pour. Là, c'est que par rapport à la signature du bail. Après, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est des choses qui sont. Voilà, qu'on a convenu avec eux. Il n'y a pas de retard de paiement.
Ils ont payé de mémoire, hein, je peux le vérifier, mais de mémoire, ils ont payé jusqu'à la fin de l'année 2018 au prorata. Voilà. Et là, au 31 août de cette année, ils paieront l'année 2019.
Plus 2020.
Non, ils paieront février, mars, avril, mai, juin, août, plus un an. Ils vont payer un an et demi.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de lever la séance. Merci beaucoup.